vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde, avec dans cette ultime édition de la saison avant la trêve estivale, Denise Epoté de TV5 Monde, Sabine Sessou d'Afrique Magazine et puis Malik Diawara. Le point Afrique, et c'est autour de deux sujets, la Centrafrique en proie à de nouvelles tensions et la publication d'un rapport de Human Rights Watch sur des exactions policières. Et puis la RDC, l'ex-vice-président et ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba, condamné à 18 ans de réclusion par la Cour pénale internationale, et ce pour des crimes commis par ces milices de l'armée de résistance du Congo en Centrafrique entre 2002 et 2003. D'abord donc la Centrafrique, confrontée à une nouvelle éruption de violence. Le sujet est commenté par Ilham Taoufiki de TV5 Monde.
Au port Sao, sur les rives de l'Ubangi, les pirogues restent obstinément à quai. Pas question de prendre les eaux du fleuve dans la situation actuelle. Les commerçants qui avaient l'habitude de le traverser pour s'approvisionner en RD Congo sont en grève. Et cela fait plus de 3 mois que ça dure. Angeline, elle en tout cas, ne veut plus risquer sa vie pour gagner son pain quotidien.
Actuellement, nous ne faisons pas de commerce parce que quand tu achètes la marchandise, ils exigent de fortes sommes. Lorsque tu refuses, ils t'intimident avec des armes. Comment peut-on commercer dans ces conditions? Nous demandons au gouvernement de les dégager et d'installer les forces armées centrafricaines.
Ils, ce sont les anti-Balaka. Cette milice qui, en 2013, avait pris les armes pour lutter contre les ex-rebelles de la Séléka, alors au pouvoir. Aujourd'hui, les ex-Séléka sont cantonnés au nord de la Centrafrique et les anti-Balaka de la capitale et du sud du pays se sont transformés en une horde de bandits prédateurs qui menacent et rançonnent et face auxquels les autorités semblent bien démunies. Elles en appellent à l'intervention de la MINUSCA, la force de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique.
Nous n'avons rien à faire, nous n'avons aucune solution en vue parce que nos forces de défense et de sécurité ne sont pas encore opérationnelles. Et nous avons essayé de voir avec la MINUSCA si elle peut aussi sécuriser le corridor, mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore au stade des négociations.
Les commerçants du fleuve sont unanimes. Pas question de reprendre leur activité tant que leur sécurité n'est pas assurée. Le manque à gagner est énorme pour eux, mais pas seulement. Depuis mars, depuis que l'activité est à l'arrêt, l'État ne perçoit plus les taxes payées par les piroguiers, près d'1 250 000 francs CFA par semaine.
La Centrafrique en proie à l'insécurité malgré donc ses élections. La semaine dernière, c'était Denise, au moins 30 personnes de tuées à Bangui, la capitale, et dans le nord du pays, entre dimanche et lundi dernier. À quoi s'ajoute la mort dans des circonstances non encore établies d'un casque bleu sénégalais, alors que la Centrafrique est donc supposée être en phase post-crise, en phase de rémission depuis ses élections. Eh bien, ces troubles comptent parmi les plus meurtriers depuis l'entrée en fonction fin mars du président Faustin Archange Touadéra. Et dans le sujet, on aura compris que finalement, on ne compte que sur la mission de l'ONU pour assurer la sécurité dans le pays.
Je crois que la violence en Centrafrique perdure pour une raison bien simple. Les milices n'ont jamais été désarmées. Pendant la transition de Catherine Samba-Panza, on a évoqué le fait que ce n'était pas un gouvernement légitime, donc ce n'était pas une priorité. Résultat, le PK5 est devenu une enclave au cœur même de la capitale, Bangui. Certains Centrafricains disent d'ailleurs que c'est leur kidal. Hein. Ces milices y opèrent sans foi ni loi et échappent à tout contrôle. À présent qu'il y a un gouvernement élu, comme vous le rappeliez, toute la communauté internationale devrait s'employer à l'accompagner à la reconstruction de ce pays et surtout à mettre sur pied une armée, ce qui n'est toujours pas fait. Ce qu'on constate, c'est que Sangaris a annoncé son départ pour la fin décembre. Les effectifs étaient déjà très réduits. On constate également que le contingent ougandais, qui était censé freiner les incursions de la RLA en Centrafrique, est aujourd'hui sur le départ. Donc, résultat des courses, c'est un appel d'air pour toutes ces milices qui sèment la terreur dans le pays.
Malik, est-ce qu'on n'a pas mis finalement la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire, pourquoi n'avoir pas opéré au désarmement, au cantonnement, bref, à la pacification du pays avant d'organiser des élections, alors qu'on savait pertinemment que finalement que le pouvoir élu ne serait pas en mesure de gérer cette insécurité.
Et je pense effectivement qu'on a mis la charrue avant les bœufs, mais en même temps, il faut bien voir la complexité de la situation. Denise le disait tout à l'heure, le gouvernement de Samba-Panza, on ne voulait pas que ce gouvernement
était contesté
du point de vue de la légitimité. Maintenant qu'il y a un gouvernement légitime, se pose la question centrale de l'État. Où est l'État centrafricain finalement? Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut une armée, il faut une administration. Donc en vérité, c'est un vrai casse-tête.
Sabine, hein, si dans le nord du pays, les violences sont opposées, semble-t-il, des factions rivales ces derniers jours, donc de l'ex-Séléka, le MPC et l'UPC, eh bien à Bangui, il en va tout tout autrement. C'est une milice d'autodéfense, une émanation de l'ex-Séléka qui s'est affrontée à la police. Donc une façon de dire finalement que les autorités légitimes ne sont pas totalement reconnues. Et ça se passait dans le quartier musulman du PK5.
Si cette enclave existe, c'est parce que les musulmans se sentent menacés aussi. Ils sont minoritaires là, ils sont presque tous partis. Donc ceux qui restent à Bangui se sentent dans des conditions de sécurité précaires. Donc il faut aussi s'occuper de pacifier et de garantir la sécurité de tout le monde. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que les policiers ont procédé à des contrôles d'identité qui ont été contestés à Bangui.
Et même des interpellations.
Des interpellations. Et donc, la réponse a été de voir des populations prendre en otage des policiers, ce qui prête à sourire, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave, ils auraient pu les tuer, etc.
Il y a eu 7 morts, en tout cas.
Oui, oui. Et ils ont libéré finalement ces policiers, mais ça veut dire que toutes les causes de la crise sont encore là, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, l'urgence, c'est quoi? Ok, il y a eu des élections, il faudra mettre cette commission vérité-réconciliation sur pied. Il faudra aussi que la communauté internationale ne se désintéresse pas trop vite de la Centrafrique. C'est quand même un point, un verrou stratégique dans l'Afrique centrale qui est en proie au chaos, dans une région qui va très mal. Donc voilà.
Ces violences mettent à jour, Denise, le fait que la réconciliation nationale n'est toujours pas là. La plupart des populations, des habitants de Bangui notamment, qui ont été contraints à aller se réfugier dans les pays voisins, ne sont toujours pas de retour.
Oui, c'est vrai. Ça pose la question justement de l'implication des médiateurs de cette crise centrafricaine aujourd'hui. Le fait que les élections soient tenues au mois de mars ne justifie pas le désintérêt aujourd'hui de cette communauté internationale. Je pense notamment au Congo qui est impliqué par l'entremise de Sassou Nguesso, mais également le Tchad qui joue un rôle important, surtout à la frontière entre la RCA et la Centrafrique. Aujourd'hui, on a le sentiment que personne ne s'intéresse à la RCA parce que les élections se sont tenues. Or aujourd'hui, Archange Touadéra a besoin justement du soutien de cette communauté internationale et de ses médiateurs qui avaient quand même pris des engagements du temps de Catherine Samba-Panza. Aucun de ces engagements n'a été respecté.
Alors quelle peut être, Malik, la marge de manœuvre d'un Touadéra? Effectivement, un Touadéra bien solitaire. Il avait reçu les hommages de François Hollande, voire des promesses d'aide prioritaire, etc., etc. Sassou Nguesso, réélu dans son pays, n'a forcément besoin de cette marche-pied diplomatique de la Centrafrique. On est là face à un homme solitaire.
Je pense qu'il a vraiment du souci à se faire parce que effectivement, quand la communauté internationale se retire, que le pays est divisé, c'est-à-dire que la notion même de nation est complètement explosée parce que les populations n'ont peut-être plus envie de vivre ensemble et que sur fond de guerre religieuse, de guerre ethnique, etc., je pense qu'il a vraiment beaucoup à s'inquiéter, surtout que l'Union africaine est un peu absente.
Ce que l'on constate, c'est que la configuration de son pouvoir, de son gouvernement, ne restitue pas forcément cette dynamique de la réconciliation, cette dynamique d'une quête de sécurité. Oui, on a l'impression qu'on a distribué des prébendes, finalement.
Bon, les élections ont eu lieu. Concrètement, sur le terrain, on voit bien, à travers les oppositions, Séléka, Antibalaka, les oppositions entre même les populations, on voit bien que rien n'est réglé. Les armes circulent, l'autorité de l'État est plus que contestée, pour ne pas dire qu'elle est quasi inexistante. Donc, je crois que c'est un pays à reconstruire, je dirais presque, à partir du début, on va dire.
Voilà. En fait, on n'arrête pas de dire qu'il faut reconstruire la Centrafrique s'habite depuis l'époque quasiment depuis l'époque Bokassa, de l'empereur, peut-être, surtout l'époque post-empereur. Vous avez parlé, Sabine, tout à l'heure, de cette manque de confiance et voire le refus de reconnaître l'autorité policière. Justement, il y a l'Office de répression du banditisme qui a été épinglé dans un rapport de Human Rights Watch, notamment son chef Robert Yekoua Kété, ouais, alias le shérif, accusé d'exaction, compte au moins 18 morts à l'actif de ce corps de police.
Oui, et quand on voit la réaction du monsieur, ça fait peur. Parce qu'il dit en gros, comment? C'est pas moi qui l'ai fait, mon institution est une institution. Genre qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut ici. Wow. La Centrafrique revient de loin, doit repartir à zéro. C'est un travail monstrueux. Je suis pas sûre que ce pays puisse en sortir dans la donne actuelle. Est-ce qu'il faudrait pas...
Sous tutelle?
Sérieux,
le mot qui fâche.
Mais il est déjà sous tutelle. Je veux dire, de facto, il y a plein de pays d'Afrique comme ça qui sont inexistants parce que leurs frontières correspondent à aucune réalité depuis la fin de la colonisation. Et du coup, c'est des pays voués à l'enfer puisqu'ils n'ont pas de raison d'être en réalité.
Des pays quasi vassalisés.
On ne va pas parler du Mali pour ne pas fâcher les Maliens, mais le Mali est quelque part un peu sous tutelle aujourd'hui à cause de sa grave crise de 2012. Mais ça fait un peu peur, ce vide politique. Est-ce qu'il faut que des pays comme le Cameroun colonise la Centrafrique?
Le Cameroun a un autre défi. C'est assurer sa sécurité et neutraliser Boko Haram.
Voilà,
pas la priorité.
Ça ne serait peut-être pas raisonnable. Juste un dernier mot, Denise. On a vu que Touadéra, le président Touadéra, un mathématicien universitaire, compte continuer à enseigner. Est-ce bien raisonnable? On a beaucoup de problèmes à solutionner de continuer à enseigner.
Moi, je suis assez d'accord qu'il continue à rester, à donner ses cours de mathématiques, parce que c'est un mathématicien. Mmh. Ça lui permet de garder les pieds sur terre aussi, hein. Mmh. Mmh. Parce qu'on a vu très souvent que ses homologues, une fois qu'ils étaient élus,
plutôt que de se concentrer sur les priorités.
L'un n'empêche pas l'autre.
Très bien. RFI, TV5 Monde, la suite d'Afrique Presse avec l'affaire Jean-Pierre Bemba, l'ex-vice-président congolais RDC, ancien chef de guerre, condamné à 18 ans de réclusion, et ce par la Cour pénale internationale. La sentence est tombée en début de semaine à La Haye. Le sujet est résumé par Emmanuel Godard de TV5 Monde.
C'est comme s'il y avait un meeting au siège du mouvement de libération du Congo. Les militants sont en fait venus suivre la retransmission du jugement de la Cour pénale internationale. 200 personnes dans un silence religieux. Tous ici dénoncent une justice sélective.
Au même moment, la Cour pénale internationale a reconnu que les principaux protagonistes des conflits à Bangui, c'était M. Patassé et Bozizé, mais ils s'acharnent à M. Bemba. Et le procureur n'a jamais instruit à des charges seulement à charge. La discrimination, l'acharnement contre M. Bemba, c'est ce que nous cesserons jamais de dénoncer.
Les hommes de Jean-Pierre Bemba étaient venus soutenir en Centrafrique le président Ange-Félix Patassé, qui faisait face à une tentative de coup d'État du général François Bozizé. La Cour reproche entre autres à Jean-Pierre Bemba de ne pas avoir pris de mesures disciplinaires contre ces hommes pour leurs actes barbares sur la population. Que Jean-Pierre Bemba soit jugé par la CPI alors que d'autres ne se trouvent pas inquiétés, certains n'hésitent pas à parler ici de néocolonialisme. Le discours ambiant, c'est que l'idée, la vision du mouvement de libération du Congo continuera de vivre avec ou sans Jean-Pierre Bemba.
La fin du procès Bemba, vu depuis Kinshasa, donc par évidemment ses partisans. Jean-Pierre Bemba, Denise, qui après avoir été jugé coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité le 21 mars dernier par la chambre de première instance de la Cour pénale internationale, a écopé le 21 juin de 18 ans de réclusion. La défense a interjeté appel. Ça dit, l'ex-vice-président paie ainsi les forfaits de ses troupes de l'armée de résistance du Congo, envoyées en Centrafrique entre 2002 et 2003 pour prêter main forte, on l'a dit, à l'ex-président Ange-Félix Patassé face à des rebelles du général Bozizé, appuyés à l'époque par le Tchad. C'est donc le chef de guerre Bemba qui se voit punir.
Oui, sans vouloir jouer les avocats de Jean-Pierre Bemba, je trouve que c'est un peu injuste de lui faire porter le chapeau de la crise centrafricaine, parce que c'était pas lui le donneur d'ordre.
Non, mais les viols, les crimes.
Les viols, oui.
Ce sont des faits.
Ce sont des faits, et certains de ces miliciens ont payé déjà. Mais on ne peut pas lui faire porter le chapeau tout seul, alors qu'il y avait un donneur d'ordre, Ange-Félix Patassé, qui n'a jamais été inquiété jusqu'à sa disparition. Il y avait également Mousséveni, qui n'a jamais été inquiété. Il y avait de l'autre côté, quand même, François Bozizé, également, qui est toujours en liberté. Je crois qu'on fait payer à Jean-Pierre Bemba l'arrogance qu'il a eue lors des accords de Sun City, en Afrique du Sud, avant l'élection de 2006. Et très clairement, la France, les États-Unis et la Belgique avaient déjà pris fait et course pour Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on constate après l'élection de 2006, Jean-Pierre Bemba, alors que ces puissances occidentales ont cherché à déstabiliser son mouvement, le MLC, Jean-Pierre Bemba fait quand même 42% des suffrages et bat Joseph Kabila à Kinshasa, ce qui est quand même absolument étonnant, parce que très rarement les opposants passent le cap des 10%. On demande à Jean-Pierre Bemba de fondre sa milice dans une armée nationale qui aujourd'hui est toujours embryonnaire, ce qu'on n'a jamais demandé à Joseph Kabila, qui était quand même à la tête des Kadogo. On lui demande de payer pour la crise centrafricaine, alors que les autres participants à cette crise centrafricaine sont toujours en liberté. Pourquoi aujourd'hui on lui fait payer tout ça alors qu'il n'est pas le seul? Pourquoi on ne demande pas à François Hollande de payer pour les fautes commises par les soldats français
de
Sangaris? Ce sont autant de faits qui confirment encore les critiques qu'on porte à la CPI. C'est une justice à charge.
Jean-Pierre Bemba, bouc émissaire, envoyé au poteau, donc d'ailleurs à l'instigation de François Bozizé, parce que c'est François Bozizé qui a fait appel à la justice internationale pour poursuivre M. Bemba, lequel Bozizé, on le sait, a chassé du pouvoir Ange-Félix Patassé, et on sait également comment lui, son régime s'est terminé, bref, un criminel patenté, mais qui lui n'est pas poursuivi. Donc est-ce que ça confirme effectivement l'idée selon laquelle on est encore là, une fois de plus, face à une sorte de justice internationale qui fonctionne en termes forme de justice des vainqueurs.
Je pense que c'est évident que c'est ce qui apparaît, puisque de toutes les façons, tous les chefs des armées ou tous les chefs, en tout cas, des différentes factions ou groupes qui ont été impliqués en Centrafrique ne se sont pas inquiétés. Et puis si on pousse le raisonnement plus loin, je pense qu'on risque d'arriver à un résultat assez catastrophique, pour la bonne et simple raison que ça signifie qu'on va poursuivre tous les chefs suprêmes des armées de toute la Terre, des exactions commises par leurs soldats. Alors, évidemment, s'ils ne condamnent pas leurs soldats et qu'ils ne les punissent pas, effectivement, dans ce cas-là, leur responsabilité est entièrement engagée. S'ils prennent des mesures contre ces soldats-là, et c'est d'après ce que j'ai compris, c'est le cas, il n'y a aucune raison. Donc, manifestement, il y a un problème, et puis il y a cette superposition un peu de combat interne entre Kabila et puis Jean-Pierre Bemba qu'on ne peut pas écarter. Donc là, du coup, les choses se passent comme si, en fait, la CPI a été instrumentalisée ou s'est instrumentalisée elle-même dans son analyse et dans son approche.
Elle a manqué de sens politique. Oui. C'est un peu plus compliqué que ça quand même, parce que c'est quand même bien que des gens qui sont à la tête de mouvements armés qui se livrent à des exactions doivent rendre des comptes, mais en même temps, ce qui est injuste, c'est qu'ils soient sélectionnés sur cette base. Et il faudrait non seulement juger Jean-Pierre Bemba, mais aussi tous les chefs de tous les mouvements rebelles, ou Kabila aussi, tous les groupes armés de RDC, parce qu'à l'époque, c'était structurel en RDC, chaque homme politique avait sa milice.
Absolument.
Donc, on ne peut pas lui reprocher d'être le produit d'un système. Il faudrait juger le système. Mais d'un autre côté, ça donne un signal clair aussi, surtout avant la crise qui s'annonce en RDC, c'est-à-dire que si les hommes politiques congolais sont tentés de refaire la même chose, il va y avoir peut-être des conséquences. C'est plus compliqué d'être l'opposant de Joseph Kabila que d'être dans les bottes de Joseph Kabila, c'est sûr. Tant que les hommes politiques africains ne respecteront pas les lois internationales ni leur peuple et se serviront de leur peuple comme de chair à canon, on aura des Africains dans cette cour de justice. Voilà, c'est tout. C'est vrai que ça paraît injuste, etc. Mais bon.
Mais on a l'impression qu'aussi il y a certains pays qui sont évités par la CPI.
Ça ferait du bien d'avoir un petit peu d'Israël et un petit peu d'autres choses, ouais, d'États-Unis même ou de France, enfin, d'armées impérialistes qui sont sur des théâtres d'opérations un peu partout dans le monde et qui commettent des exactions. On le voit un peu partout. Il y a eu des viols en Centrafrique.
Alors on dit qu'ils commettent des exactions, mais en même temps, ils contribuent à sécuriser ces pays. Enfin, qu'est-ce qu'ils apportent positivement est supérieur aux dégâts que commettent leurs soldats.
Mais on l'a condamné parce qu'il ne pouvait pas ne pas savoir. Mm-hmm. Donc il ne peut pas être innocent.
En fin de compte, rappelons.
Parce qu'il savait aussi, Mousséveni savait aussi,
en
liberté.
Rappelons que l'arrestation de Bemba en 2008 a été une arrestation assez bizarre.
Absolument.
C'est à la dernière minute, il a été cueilli en Belgique.
Mandat d'arrêt avait été signé la veille de son arrestation.
La veille de son arrestation, donc on l'a un peu pris en traître, si j'ose dire. Et puis, on sortait, Denise, de cette crise sévère qu'il avait opposée à Joseph Kabila, dont il a été le vice-président entre 2003 et 2006. Et cette crise sévère, notamment, avait abouti à une confrontation avec la garde rapprochée de Bemba et celle de Kabila. Et on a bien compris que la communauté internationale avait pris fait et cause pour Kabila le petit.
Absolument, parce qu'à ce moment-là, on avait demandé, au lendemain des élections, on avait demandé à Jean-Pierre Bemba de fondre sa milice au sein de l'armée, une armée qui n'existe toujours pas, ce qu'il avait refusé de faire. Et les Kadogo de Kabila n'ont pas été fondus dans cette armée-là. Donc Jean-Pierre Bemba justifie sa réaction assez musclée, comme il était en position de défense.
On peut s'attendre à un résultat de son appel plus...
Je crains que le résultat soit vraiment beaucoup plus grave. Je pense que...
La justice ne peut pas se dédire.
Bon, il a interjeté appel, mais il prend des risques. Mais bon, c'est une question d'honneur aussi, quelque part. Le résultat juridique risque d'être catastrophique.
Résultat politique aussi, parce qu'on est à la veille d'un grand tournant en RDC, et le signal fort que ça donne, c'est que Kabila est tout puissant, et qu'il est tellement tout puissant qu'il peut se permettre de faire condamner Moïse Katumbi à 3 ans de prison ferme, sur la base d'un dossier complètement truqué, sur la base d'une maison qui, en fait, appartient bien à la famille de Katumbi.
Kabila, d'ailleurs, qui s'en prend à la communauté internationale, qui dénonce l'ingérence.
Une communauté internationale qu'il a pourtant soutenue,
n'est-ce pas?
En 2006.
Mais bon, les hommes politiques sont comme ça.
Malik.
En général, ils ont des variations autour d'un même thème, donc je crois qu'il faut considérer ça comme une variation autour d'un même thème.
Alors, l'un des principaux alliés à l'époque de Jean-Pierre Bemba, Olivier Kamitatou, justement, fait partie du G7 et de l'opposition. Et peut-être que, quelque part, ils ont envie aussi de démontrer que, finalement, Joseph Kabila n'est peut-être pas si démocrate que ça, Denise.
Aujourd'hui, le G7, c'est quand même à un candidat, c'est Katumbi.
C'est Katumbi, Moïse Katumbi.
C'est Moïse Katumbi, donc ils essaient essayent de monter une opposition structurée face à Kabila, mais vont-ils y parvenir? Parce que comme le disait Sabine, aujourd'hui on sent que Kabila reste encore tout puissant.
Un dernier mot, Sabine. Oui.
Ce qui signifie qu'on a du souci à se faire pour la suite du mandat et de l'organisation des élections, etc., etc.
Non, mais non seulement du souci à se faire, mais il y a une insurrection qui vient en RDC, tout le monde le sait, et tout le monde fait comme si ça n'allait pas se produire, ou ça va être catastrophique cette crise-là. Il va y avoir encore une guerre.
Alors que Kabila réclame à corps et à cri son dialogue national.
Mais quel dialogue? Pour discuter de quoi? De ses propres erreurs? C'est lui qui était responsable, il n'a pas fait le recensement, il n'a pas fait les choses à temps. C'est lui qui devrait être sur la sellette, ce n'est pas les autres qui devraient être sur la sellette. Il n'y a rien à discuter.
C'est la fin de cette émission. Merci de désépoter Sabine Sessou, Malik Diawara, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Rendez-vous début septembre après cette parenthèse de l'été. Encore merci de votre fidélité à Afrique Presse.